Bonjour Maurice.
Bonjour Jean-Philippe.
Ça fait 45 ans qu'on ne s'est pas vu.
À peu près, ouais.
En 1977, saison 77-78 à Pompadour, qui était la deuxième année de l'école de l'animation du Club Med. Et comme tous ceux qui ont fait, ou comme la majorité de ceux qui ont une expérience au Club Méditerranée en tant que Géo, ça nous a marqué au fer rouge à vie. Tellement on en garde des souvenirs extraordinaires, peut-être des souvenirs un petit peu plus difficiles, en tous les cas on garde des souvenirs, beaucoup plus de souvenirs extraordinaires qu'autre chose. Et donc j'ai ressorti mes bandes magnétiques de cette époque, qui sont toujours d'une très grande qualité technique sur le plan sonore, et j'ai quelques enregistrements que je vais te faire écouter. Donc il va y avoir une séquence émotion, je pense. Où tu t'es produit dans un spectacle à Pompadour. Et voilà, je voulais partager ces sons avec toi d'abord, et puis avec toute la communauté des Géos qui se reconnaîtront dans cette histoire du fantastique cirque en bois de Pompadour, où avaient lieu les spectacles, qui malheureusement a brûlé en 1979 ou 80, quelque chose comme ça. Et en tous les cas, on va y aller. Mais que faisais-tu au club et que fais-tu maintenant? Alors, je te laisse commencer par l'extrémité qui te convient.
Bah, au club, j'ai eu le parcours traditionnel. Je suis rentré, pas tout à fait traditionnel d'ailleurs. Je suis rentré avec une troupe de théâtre qui avait un contrat avec le CET à l'époque. Et j'ai été à Couchadassy, ma première saison. Et on avait pour mission de monter, à l'époque, les GM. Passaient des vacances, ils prenaient 3 semaines à peu près à l'époque. Donc on avait une pièce de théâtre par semaine qu'on devait monter, une soirée cabaret et une soirée de poésie. Donc on avait 9 spectacles à monter par contrat. Donc je suis parti avec cette troupe, on a monté nos pièces de théâtre, on a monté nos soirées cabaret et nous avons monté nos soirées poétiques. La soirée cabaret, c'était la soirée de départ en général, parce qu'elle était sur le rire, sur la fête, et les autres soirées, c'est des soirées qu'on distillait sur la semaine, comme ça, voilà. Et malheureusement, la troupe avec laquelle moi je suis parti, c'était pas leur état d'esprit. Ils sont au bout de 2 mois, alors c'était des saisons de 6 mois, 7 mois d'ailleurs. Ils ont donné leur démission.
Vous n'étiez pas Géo, en fait, vous étiez
Non,
intervenant extérieur.
on était comme des intervenants extérieurs, exactement, à ce moment-là. Le chef de village s'appelait Jean-Pierre Deloff. Deloff a reçu le chef de troupe, notre pote, notre boss, à nous. Et ils ont décidé d'arrêter le truc. Mais moi, ils m'avaient repéré. Et puis surtout, si on rentrait à Paris, j'avais rien à faire. J'étais un peu à la rue. Donc, il m'a proposé de rester. Il m'a dit, mais t'es bon, tu fais rire tout le monde. Pourquoi tu resterais pas comme animateur? Moi, c'était pas mon métier. Puis animateur, à l'époque, je te parle de ça, on est en 69, ça ne signifiait rien. Je voyais pas ce que c'était. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, je vais t'apprendre le métier. Toute la troupe est rentrée, moi je suis resté. Je suis devenu animateur. Il m'a appris ce que c'était que d'animer une soirée, d'animer la journée, d'animer les trucs. Il m'a aidé à monter des spectacles. Et puis je suis resté. Et j'ai fait la saison de Couchadassy en 69, la saison d'hiver 70. Et dans l'hiver 70, le CET a fusionné avec le Club Méditerranée à l'époque. Et donc on est devenu Club Med, on est devenu Géo. Et coup de peau pour moi, il a été nommé à Agadir, qui était en 70 le premier village en dur du Club Med. À l'époque, c'était des cases. Et donc,
C'était le modèle des castes haïtiennes
c'était
de
exactement.
Gérard Blitz.
C'était tout ce modèle-là, sauf que le CET, lui, et c'est pour ça que le club a pris fait et cause avec le CET, c'est que le CET, lui, qui avait démarré bien plus tard, n'avait construit ses villages que en dur. Donc le club, en fusionnant, venait d'acquérir à l'époque, je crois qu'il y avait une trentaine de villages du CET, mais qui étaient tous des villages en dur, avec des bungalows. Mais le Club Med, à l'époque, avait construit son tout premier village de luxe à Agadir, suite au tremblement de terre d'Agadir.
Gilbert Trigano avait été sollicité par le roi.
Ouais. Et il avait d'ailleurs négocié un truc formidable avec Sa Majesté. Je ne vais pas dire de conneries, parce que je n'étais pas dans le secret des dieux, mais je crois qu'il avait une concession pratiquement gratuite sur la plage, en disant, si vous faites le Club Med ici, c'est pour vous à vie, je vous donne le terrain. Parce que personne, et il avait fait le pari, que malgré le tremblement de terre d'Agadir, les gens viendraient et découvriraient le Maroc. Et je crois que c'est parti comme ça.
Alors, petit.
Crois, parce que moi, je suis pas dans le. J'étais pas à l'époque dans le secret des dieux.
Oui. Et en plus, on se préoccupait plus d'animation comme dans nos vertes années. Oui. À l'époque, le Club Méditerranée, alors je sais pas aujourd'hui, je pense que c'est un peu le même modèle, n'était pas propriétaire.
Jamais
propriétaire des villages non, où ils opéraient. Ils étaient locataires.
Ouais.
Et ils étaient opérateurs de tourisme.
C'était une stratégie parce que les villages du club étaient à l'étranger. Donc, quoi qu'il puisse se passer d'une façon géopolitique ou simplement des problèmes qui faisaient qu'on ne pouvait pas rester là où on était, c'était des locations, donc ils partaient. S'ils avaient été propriétaires, ça aurait été, à mon avis, plus compliqué. Je pense que c'était vraiment une stratégie du génie de Trigano, parce qu'il devenait propriétaire, il devenait locataire. Mais donc, il pouvait aussi partir du jour au lendemain en laissant sur le terrain des choses qui ne lui appartenaient pas spécialement. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises, parce que moi, j'ai, encore une fois, c'est après 70 que je suis rentré à la direction, que j'ai atterri à la bourse, l'animation.
Il faut dire que Gilbert Trigano avait quand même une idée de génie à l'époque. Il avait clairement identifié que la valeur ajoutée du Club Med, elle n'était pas dans le patrimoine.
Non.
Mais elle était dans le savoir-faire.
Dans l'humain.
Dans l'humain,
ouais.
Principalement dans l'humain.
Ben, le coup de génie, d'abord, au départ, c'est Blitz. Enfin, ces deux personnalités qui se sont rencontrées et croisées. Un, parce qu'il avait besoin des tentes de la maison Trigano, et l'autre parce qu'il avait les tentes. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui ne pouvait plus payer, et il y en a un qui a dit, écoute, ce que tu me dois, je vais le prendre en participation. Ça, c'est le coup de génie de Gilbert. Puis c'est vrai qu'une grande idée, elle devient géniale que si elle se réalise. C'est-à-dire que c'est vrai que l'idée de départ, c'est Blitz, mais s'il ne rencontre pas Gilbert, qui est un homme extraordinaire, exceptionnel, bon, j'ai entendu des trucs sur lui, des abrutis qui peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'était un mec absolument génial, avec un état d'esprit, et puis surtout une vision. Il a eu la vision des vacances du futur. Il a développé une idée sur un plan international, avec une vision exceptionnelle de ce que pourraient être les vacances futures.
En fait, la mixité Gérard Blitz, Gilbert Trigano a fait un mélange explosif, mais de façon très positive, en fait.
Ouais. Moi, je les ai toujours vus ensemble, avec tous, l'un et l'autre, beaucoup d'amour et de respect l'un pour l'autre. C'est comme ça que je les côtoyais. Mais nous, effectivement, on avait 20 piges. Tu peux imaginer qu'on cherchait pas midi à 14h. Donc moi, j'atterris à Agadir.
20 piges en 69.
Ouais.
Le club est né en 50.
Ouais. Moi, je suis de la deuxième génération. Je suis pas de la toute première génération. Mais je rencontre à ce moment-là des gens qui avaient fait le club. Alors, les vrais. Baladjan, Charlie Benilouz, enfin plus toute la génération des tout premiers, qui étaient dans les années 52. Ça a commencé comme ça, je crois. Voilà. Donc moi, j'arrive en 70 à Agadir, et ça, c'est le coup de peau du ciel pour moi, parce que le village d'Agadir devient le village emblématique du Club Med. Ce qui fait que tous les VIP du club, de Gilbert Trigano, les invités de Gilbert Trigano, que ce soit dans le monde de la finance, dans le monde du spectacle, dans le monde politique, tout le monde va être invité. Tous ceux qui sont invités par Gilbert sont invités à Agadir, qui est la perle du club à l'époque. Je rencontre le tout premier qui m'accueille, c'est Jean-Robert Resnick. Je débarque, il me dit, t'es animateur, ce soir, tiens, prends l'animation. Je venais d'arriver, je dis, mais comment ça, je prends l'animation? Fais-nous rire, boum, et il me balance sur scène, Et j'arrive avec mon background de ce que je faisais à l'époque, enfin à l'époque, au CET, 6 mois avant à Chamonix, et puis presque un an avant à Kushanassi, et puis je fais marrer les gens, et puis il me dit « bon, ça va bien se passer ». Je fais un mois avec lui, Jean-Robert, qui va devenir un des très grands patrons du club. Donc ça, ça m'a aussi suivi. Ça, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui allait devenir important. Et puis, il s'en va. Christian Deloff arrive. Il avait pris ses vacances entre les deux, parce qu'il fallait qu'il se repose. Et quand il arrive, le terrain est en place. Moi, je suis animateur. Autre coup de peau, le mec des sports, qui est le patron des sports, c'est Claude Besson, le père de Luc Besson. Et tout ça a un sens dans ma vie, parce que moi, je vais retrouver son fils 30 ans plus tard dans le cinéma, puisque je vais travailler pour lui, pour sa boîte de production qui s'appelle EuropaCorp. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça fait partie de ma vie. C'est très étrange, le parcours que j'ai à ce moment-là. Et grâce au fait que je sois à Agadir, je vais rencontrer toutes les personnalités importantes, influentes autour de Gilbert Trigano et de la direction générale du club. Et quand ces gens rentrent de leurs vacances, de leur séjour, ils disent « Ah, il y a un petit mec tout marrant, tout maigrichon, qui nous fait rire, il est drôle, il est sympa. » J'ai que des compliments, mais moi, je fais rien pour ça. Je sais même pas qu'il y aura un feedback.
Dans ta nature.
Ouais, c'est ma nature. Je suis animateur, quoi. Je suis un mec de communication. J'aime les gens, je fais rire. Et puis cet état d'esprit. Et moi, vu mon histoire personnelle, je me trouve dans un contexte d'amour. Et là, je m'éclate. C'est-à-dire, je m'envole. Et je suis avec Claude Besson, avec qui je fais un pendant extraordinaire, parce que lui, il est fort et blond. Et moi, je suis maigre et brun. Et on fait une paire incroyable. On va monter des sketchs, on va faire des spectacles qui vont être mémorables. Et ce séjour à Agadir va me faire... cette année-là, tu sais, il y avait des Oscars. On mettait les Oscars à la fin des saisons. Mm-hmm. C'est pas moi qui l'ai, c'est Gérard Chambre qui l'a à Corfou. Mais moi, j'ai plus de popularité, parce que les Oscars sont remis par les GM. Bon... Alors Gérard, lui, il est dans un village où il y a 1800 personnes, c'est Corfou, donc il a plus de tampons, bon animateur, excellent. Moi, j'ai moins de personnes, mais par contre, ma popularité auprès de la direction générale, des gens importants, elle va me devancer, moi je ne sais même pas tout ça, je suis au courant de rien, hein, par des gens qui n'arrêtent pas de rentrer, qui sont des gens qui mangent à la table de Trigano et qui disent « il y a un mec, faut que tu l'envoies ».
Maurice Illouz et le géo dont on parle au siège.
Voilà, on parle de moi, exactement, on parle de moi au siège, sans que moi je le sache, évidemment. Moi, ma passion, c'est le théâtre, ma passion, c'est le cinéma. On me propose un village, alors à l'époque, moi, je vais faire une des plus longues saisons que j'ai faites, puisque je démarre en juin et je vais terminer en... juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Six mois de pleine saison. On me demande de rester. Je dis non. Je rentre à Paris et je quitte le club parce que une personnalité du monde du spectacle à l'époque passe par le club. C'est Monsieur Jean Vergne qui me propose de prendre l'animation au Don Camillo à Paris et de faire des numéros au Don Camillo. Donc une opportunité pour moi de faire ce que j'aime, mais sur un plan professionnel et pas en tant qu'animateur sur un village. Donc je quitte le club, alors qu'on me fait des propositions importantes à ce moment-là, et je quitte le club en 70. Et puis en 72, alors je reste en contact avec eux... ça va, oui, t'es sûr que tu veux pas revenir? Non. Alors moi, j'ai la chance. 71, je suis au Don Camillo. 72, je pars en tournée avec Gilbert Bécaud. Je commence à être sur des scènes de théâtre à Paris. Je joue dans Hold Up. Voilà, ma carrière démarre comme ça. Et puis, ma vie est faite que je me retrouve avec une femme qui a déjà des enfants. J'ai pas l'âge d'assumer tout ça, mais ils sont là. Et le club me rattrape. Je reçois un coup de fil, je me souviendrai toute ma vie à l'époque, de André Régade, qui m'appelle et qui était le directeur général du Club Med à l'époque, et qui me dit « Maurice, il faut que je te voie, viens me voir au bureau, je vais te faire une proposition qui va peut-être t'intéresser. » Je dis « D'accord. » J'arrive, il me dit « Écoute, voilà, Chabanex, Jean-Philippe Chabanex, va quitter la direction générale de l'animation du club, et si tu veux, je te propose ce poste. » Je dis « Mais c'est pas mon métier, André, moi je suis pas à faire ça. » Il dit « Non, mais tu seras pas seul. Tu seras avec quelqu'un qui fait exactement ce que tu fais, qui s'appelle Gérard Chambre, qui fait de la comédie, qui joue avec Annie Cordy au théâtre en ce moment. Je vais vous donner le poste à deux, et je vous autorise à faire vos spectacles. Il faudrait toujours qu'il y en ait un des deux qui soit sur le terrain, mais alors on va prendre le salaire, on va l'augmenter, on va le diviser quand même par deux, mais vous êtes open. Vous pouvez, quand vous avez une disponibilité, prendre votre disponibilité pour aller faire une pièce de théâtre ou un film ou un truc. »
Alors, tu viens de dire quelque chose de très important. Enfin, tout à l'heure, tu as dit que vous étiez en duo.
Ouais.
Il y a eu beaucoup de duos au Club Méditerranée. Ouais. On va peut-être en citer quelques-uns, notamment Maurice Ilouz et Gérard Chambre.
Ouais.
Mais en plus, il y a eu beaucoup de talents qui se sont révélés autour du Club Med. Alors, je ne vais pas faire un classement,
non, mais
il y a une vingaine de têtes d'affiche aujourd'hui qui sont passées par le Club Med. Alors, est-ce que le Club Med a été leur école, en tous les cas? Est-ce que ça a probablement été une influence sur leur révélation des métiers du spectacle?
Mais ce qu'apportait le Club Med à des artistes qui étaient des artistes en devenir à l'époque, c'est qu'on leur offrait une scène...
Une carte scène, blanche.
Carte blanche.
C'était open bar.
Exactement. Et un public.
Oui. Et ce qui a été très important, c'est qu'il y en a même qui n'avaient pas la fibre du spectacle a priori, comme Cantelou, et qui se sont révélés. Cantelou, il était moniteur d'équitation à Pompadour. Hein.
En ce moment, il y a Cap-Brévière quand même qui éclate partout.
Oui.
Et il y a eu, alors moi, à mon époque, je peux te le dire vraiment, qui sont passés par le Club Med, il y a eu... Yves Duteil, le chanteur. Il y a eu, je me souviens d'avoir invité Jacques Weber qui a rodé un spectacle, mais c'était pas le Jacques Weber qu'il est aujourd'hui, tu vois.
Effectivement un autre avantage du Club Med, c'est que le Club Med invitait à l'époque beaucoup les gens du spectacle qui venaient roder leur spectacle.
Exactement.
Au Club Med, en fait, hein, comme les frères Jolivet, pour ne prendre
Les frères Jolivet qui sont devenus après des géos, mais qui ont rodé leur spectacle. Enfin, oui, ils étaient un duo, c'était un duo.
Pierre et Marc Jolivet.
Pierre et Marc, mais il y a eu plein. Et on invitait des artistes qui faisaient leur tour.
Il y a eu Marlène Jobert aussi, que tu as connue, je crois, au cinéma.
Je l'ai connue pour avoir tourné avec elle, moi, au cinéma. Je ne l'ai pas connue au Club Med, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'artistes, parce que le club, c'était une scène internationale. On offrait à des gens du spectacle la possibilité de roder leur spectacle et d'avoir... Donc on a créé des forums après. Mais les forums invitaient des gens qui n'étaient pas connus à l'époque. Moi, je me souviens que... Je peux t'en citer plein. La Gaffe, qui est devenu un animateur de renom important.
Anne Roumanoff,
mais énormément de gens se sont servis. Alors, ils n'étaient pas géo-géo. Il y a eu quelques géos qui sont restés géo et qui, après, ont... Gérard Lenormand, il a chanté au club avant de chanter Bruel.
Oui.
Il a été... c'était normal d'avoir... Si tu veux, c'était emblématique... pour des jeunes artistes, plus de la variété ou du musical, de venir se tester. On les invitait et on leur disait, venez, on vous invite 15 jours, 3 semaines, vous faites vos spectacles dans un village ou dans plusieurs villages. Ils faisaient des tournées à l'époque. Voilà.
Alors, je vais te proposer qu'on passe tout de suite à quelques souvenirs. Et je vais te faire écouter, alors je précise à notre auditoire, pour ceux qui écoutent ce podcast, et j'espère que les anciens JO seront nombreux, nous allons écouter donc une bande magnétique que tu n'as jamais écoutée.
Non.
D'accord.
Je ne sais pas ce que tu vas me faire écouter, d'ailleurs.
Donc, séquence émotion.
Plaisir derrière des vitres et des grilles jusqu'à dormir, jusqu'à mourir. Sous mes paupières violacées, tu vois je n'ai qu'une pensée, être une femme pour de vrai, une vraie femme s'il te plaît. Eh bien, puisque vous insistez, je vais vous chanter maintenant une petite chanson que j'aime bien, que je vais offrir ce soir à mon ami William, qui est dans le coin, parce qu'il fait sa grande première cette semaine. C'est Le Comédien. En vérité, je l'offre à tout le monde, hein. Mais plus particulièrement à lui. Un petit peu moins fort, la musique. Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à 2 heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leurs marteaux-piqueurs, alors je me traîne jusqu'au bistrot à gare, j'avale 4 expresso très fort, je demande tous les journaux, mais je ne lis que la page spectacle. Le reste, je ne m'en soucie guère, du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, j'apprends que machin va jouer Scapin. Alors ça, messieurs, dames, c'est un rôle pour moi, ça. J'apprends que Dupont va jouer Néron, il sera mauvais comme un cochon. Enfin, franchement, quand je me regarde, qu'est-ce que j'ai de moins, hein, que Humphrey Bogart, que Mastroianni, que Peter O'Toole. J'ai tout, la sensibilité, la violence, rien qu'un peu de chance. Et moi aussi, je serai l'idole des fous. Je suis comédien et je sens soudain mon destin porté de ma main. Alors je remonte prendre mon bain, je me sens des ailes. Paris, tiens-toi bien, je fonce à Boulogne-Billancourt. Je dis, je veux voir Monsieur Dartemour en conférence. Mais là, ça n'a aucune importance, oui, j'attendrai. Je suis dans un bon jour, je suis comédien. Et quand le soir vient, que je n'ai pas vu Monsieur Dartemour, tant pis, je m'en vais. Bonsoir aux copains. Et puis le métro, cœur chagrin, cœur lourd. C'est que dans ma tête, l'empyrée s'éteint. Dans mon cœur se meurt le pantin, j'ai l'affreuse peur du lendemain. Mes trains, je suis comédien. Chez moi, je reviens. Ne croyons plus en moi, ne croyons plus en rien. Grâce à Dieu, j'ai encore du whisky. C'est cher le whisky, oui, mais ça guérit. Au troisième verre, déjà j'oublie ma vie sans amour, ma vie sans amis, vie que j'ai voulu seulement remplie de moi et de moi et de moi et de moi. On croit que c'est énorme à moi, n'est-ce pas, messieurs, dames, n'est-ce pas? C'est tout petit. Je suis comédien, je suis plein d'alcool, je suis plein de rêves. L'espoir revient, je suis comédien, comme une tempête, des répliques tournent, tournent dans ma tête. Je suis comédien, j'entre, c'est à moi, et j'entends la foule hurler de joie. Je suis comédien, je suis roi, je suis Dieu. Je suis comédien.
Bien, merci beaucoup Maurice, merci pour cette merveilleuse chanson bien de les comédiens. Oui, bien, j'espère que Maurice viendra tout à l'heure, juste après le petit final que nous proposons ce soir.
Wow.
Souvenir, souvenir. Tu m'as
accueilli, là. Merde.
Souvenir exceptionnel.
Oui, c'est, je suis ému, mais pas parce que je m'entends chanter, mais parce que c'est toute une époque de ma vie, c'est tout ce que j'étais en fait. J'étais à la fois l'animateur, comédien avec la sensibilité que j'avais, et le rire était une arme absolue, et le club m'offrait ça, m'offrait toute la possibilité d'exprimer ma personnalité. Et j'étais en duo, en duel, pardon, en duo. J'étais en duo avec Gérard Chambre et en duel avec moi-même parce que il y avait cet appel de la reconnaissance du métier avec ce que je pense que je pouvais faire. Et quand je m'entends chanter, c'était pas si mal que ça, finalement. Je sais que je me souviens maintenant, à l'écoute de ça, des GM, des gens qui étaient au spectacle, que j'offrais, que je faisais rire 3 minutes avant et que j'embarquais dans l'émotion 5 minutes après. Et cette palette, tout ça, je pouvais l'exprimer au club, mais c'était brouillon, c'était pas construit. Et peut-être que j'ai pas su le faire quand j'ai quitté le club, dans mon métier, après d'acteur ou professionnellement, je veux dire. Parce que, voilà, je... Si j'entendais ça aujourd'hui, j'avais 23 ans, hein, c'est pas oublier, je me serais dit, ben, ce mec-là, il a quelque chose, on va lui faire des chansons, on va le construire, on va... Voilà, je pouvais être dans un registre à la Reggiani, évidemment, je suis pas Reggiani, mais je pouvais être dans ça, parce que j'étais un interprète, en fait, j'étais un comédien qui chantait, là. J'étais pas un chanteur. Qui jouait la comédie, c'était l'inverse.
Mais on sent clairement que tu y mets le cœur.
Ben, j'ai toujours mis le cœur dans tout, moi.
Alors, je crois que c'était la particularité, quand on était géo, on s'éclatait. Alors, moi, ça m'a suivi longtemps, parce que j'ai continué à faire parler mon cœur. Alors, les gens qui me connaissent dans d'autres vies professionnelles ne s'en sont pas toujours aperçus. Mais en tous les cas, cette spontanéité qu'il y avait au Club Méditerranée, qui était demandée par Gilbert Trigano, il n'attendait que ça. Lâchez-vous, exprimez-vous, soyez créatifs. Et on avait des moyens qui étaient très importants pour l'époque, et je pense toujours aujourd'hui au Club Méditerranée. Alors, je ne vais pas faire la comparaison entre ce qu'il est devenu et ce qu'il était, c'est pas ça l'objet, c'est pas ça l'intérêt. Mais il y avait, pour les métiers du spectacle, il y avait une possibilité de créativité. Moi, j'ai vu des spectacles absolument exceptionnels. J'ai vu aussi des spectacles dont je ne parlerai pas, mais j'ai vu des spectacles vraiment exceptionnels.
A donné un cran.
Elle a professionnalisé le spectacle.
J'ai une pensée pour elle énorme parce que d'abord je l'aimais énormément. C'était la femme d'un ami qui était Gilbert Héron. Et bon, elle est partie il n'y a pas longtemps, il y a un an, je crois, un an. Et Arlette, elle a donné les lettres de noblesse au spectacle. Nous, on est de la génération Chabanex. On allait à l'Alcazar. Et on prenait, on faisait du playback. Arlette, elle a monté des spectacles qui étaient des shows à l'américaine. C'était Broadway. Ouais. Elle créait des spectacles formidables. Et elle a donné des lettres de noblesse aux soirées spectacles du Club Med. Et moi, j'ai adoré travailler avec elle. C'était des amis d'abord, et puis des géos de référence avec des moments de souvenirs magnifiques, avec mon pote le Rouquin. Voilà, on a vécu. Moi, je peux juste dire merci à la vie, même si j'ai pas réalisé tous mes rêves, Parce qu'avec humilité, je reconnais qu'aujourd'hui, je suis pas en haut de l'affiche, ou j'ai jamais été en haut de l'affiche, alors que j'en ai rêvé, je le dis dans la chanson. Mais bon, j'ai eu ma petite part de bonheur et d'expression grâce au club. Moi, le club, il m'a apporté plusieurs choses. Il m'a apporté déjà le regard humain sur le social. C'est-à-dire que nous, à notre époque, il n'y avait pas de différence d'ethnie, de religion, de couleur de peau. On travaillait tous ensemble. On était vraiment des hommes et des femmes qui travaillons pour faire passer des moments de vacances magnifiques à des gens qui arrivaient de partout. Il n'y avait pas de classe sociale. Le patron, le PDG ou l'ouvrier de chez Renault, ils étaient en maillot de bain. Celui qui arrivait avec la cravate, on lui coupait la cravate.
Voilà. Ce qui nous distinguait, c'était la couleur du pareo.
Ouais, exactement. Tu as raison de parler du pareo. Il n'y avait pas d'argent au club. L'argent ne circulait pas. C'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on avait perdu la notion du pognon, puisque c'était des boules. On payait avec des colliers barres. Tout le monde était en pareo. Et que tu sois un noble... Moi, je me souviens, monsieur Rothschild, qui était Edmond Rothschild, quand il venait au club, il était géo. Il n'était pas Edmond Rothschild. On le tutoyait, on rigolait, on le chahutait. Les classes sociales, les couches sociales tombaient. Il n'y avait pas de différence. On s'aimait les uns les autres. On se détestait, c'était possible. C'était pas bisounours tout le temps. Mais on n'était pas dans tout ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me retrouver dans le monde dans lequel je suis. Moi, aujourd'hui, avec le respect de tout ce qui se passe pour chacun qui se bat pour son avenir, je ne te cache pas que je suis... étonné, mais je peux le comprendre en même temps qu'un môme de 20 ans se préoccupe de sa retraite de 64, tu vois, de 64 ans.
Nous étions loin de nous en préoccuper à l'époque.
Encore une fois, nous, on était dans une époque où on n'était pas dans ça. Et puis le club, ça a été une école de la vie. Moi, les géos du club qui sont restés des amis, je les ai appelés mes frères de vie. Là, je viens de perdre quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est Stéphane Dufailly, qui est mort le 14 janvier. Il fait la fête avec sa copine Myriam à Agadir. J'ai des photos. Et puis, il est décédé il y a 5 jours. C'est-à-dire 3 semaines après, il est mort, comme ça, dans son lit. Remarque, il a eu une belle mort, mon petit Stéphane Chéri. Et c'est des gens, on arrivait de nulle part, on nous mettait sur le terrain et on disait « vas-y ». Et on y allait.
Et on y allait.
Voilà. Alors, on pouvait... Ce ne pouvait pas être la bonne porte, mais en tous les cas, ceux qui pouvaient s'exprimer et exprimer ce qu'ils étaient. Si j'ai réussi au club, dans mon domaine, à moi, c'est parce qu'on m'a laissé m'exprimer. Et ce que j'étais, c'était tellement moi et tellement nature que j'ai touché les gens qui étaient là. Après, quand il m'a nommé patron de l'animation du Club Med avec Gérard Chambre, j'ai appris un autre métier. J'ai appris l'organisation. Et j'ai compris après aussi pourquoi je suis devenu producteur de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été mon école à la production, d'organiser les choses, de mettre en place pour, de faire en sorte de recruter, le recrutement, la formation, la mise en place, et puis aller dans les villages. Avec Gérard, on se faisait... on recrutait l'hiver, on formait l'hiver, on mettait en place au printemps, et on envoyait les géos dans les villages. Et à partir de... Quand tout le monde était en place, un mois après, nous, on allait dans les villages voir si tout se passait bien. T'imagines la vie qu'on avait. C'était unique.
C'était exceptionnel.
Et c'était exceptionnel. Mais pas seulement... C'est-à-dire qu'on nous disait, vous avez des vies de milliardaires. Mais non, on avait des vies pleines. Parce qu'on allait dans des pays qui étaient différents. On voyait des cultures. Quand tu étais dans un village du club, tu vivais avec les gens. On n'était pas des touristes.
Les personnels locaux qui travaillaient avec... Locaux qui travaillaient avec nous, quand on était au Maroc, c'était des Marocains. Puis il y avait des gens qui venaient d'autres pays, de Côte d'Ivoire, des Bahamas...
On a brassé des femmes et des hommes de toutes communauté, de toute couleur, on s'aimait pas, on fortait, mais on était dans une espèce d'union universelle de l'humanité, de ce qu'elle est en train de devenir et de ce qu'elle deviendra de toute façon dans les siècles futurs. Parce qu'aujourd'hui, tu peux toujours taper du poing sur la table, ça c'est mon opinion, elle n'engage que moi, et dire chacun chez soi, c'est foutu, c'est fini. Le monde se mixe.
Le sapiens est grégaire,
bah, bien évidemment. Fondamentalement. C'est-à-dire que tu peux toujours dire, l'autre imbécile de Zemmour, il peut toujours parler du grand remplacement. Oui, il y aura le grand remplacement, mais pas comme il le dit. C'est parce que c'est
par
la marche de l'humanité.
Par le
mais bien sûr. Les générations d'aujourd'hui sont mixtes et elles le seront encore plus tard. Et si on projette, ça c'est moi qui parle. Hein, c'est pas, je dis pas que je suis un scientifique ni un analyste et que, mais je vois le monde évoluer. Et ben c'est comme ça. Dans 3 siècles ou 5 siècles. On sera tous des cousins de cousins de millions. On sera mélangés.
On l'est déjà d'ailleurs.
Mais bien sûr, on sera mélangés. Alors, ouais. Bon, c'est des bagarres d'arrière-garde pour ouais. moi. C'est comme les gens qui disaient que la Tour Eiffel, fallait pas la faire.
Tu dis que le Club Med, à très juste titre, et c'est pour moi le plus important aussi, que ça a été l'école de la vie pour toi.
Ah, pour moi, oui, complètement. Et c'est parce que j'ai été patron du Club Med que j'ai pu me lancer dans la production de cinéma. Parce que je ne suis pas un homme d'argent, je ne suis pas un financier.
Tu es un artiste.
Je suis avant tout quelqu'un habité par une expression artistique. Je suis sensible à tout. Je dis jamais c'est pas bien, c'est pas beau. Je dis j'aime pas. Voilà, ça engage moi. Mais si je dis c'est pas bien, je donne une vision de ce qui est beau ou de ce qui est bien. Mais ce qui est beau ou ce qui est bien, c'est bien pour moi. Ça peut être différent pour toi. Par contre, je peux ne pas aimer quelque chose. Je peux ne pas être sensible. Et le club m'a appris ça.
Mais on respectait beaucoup les autres.
Mais bien sûr. On était obligés. On vivait pas. Il y avait au Maroc, il y avait pas des juifs, des arabes, on était tous ensemble les
des
uns.
Des blancs, des noirs, des jaunes.
Voilà. On était, quelles que soient les communautés. Et puis le club a été en avance aussi sur le plan social, il a permis la liberté. Alors, faut reconnaître après 68. C'est-à-dire que la liberté sexuelle, elle s'est exprimée au club.
C'était la plus grande agence matrimoniale de France.
Ah ben moi, oui, ça c'est sûr. Moi, je reviens avec une femme qui a 3 gosses. Hein. Ben, c'est pas les miens, mais je vais m'en occuper pendant 7 ans.
Moi, pour ton information, on se l'est pas dit en off, mais j'ai rencontré mon épouse à Agadir.
Ah ben tu vois, comme quoi Agadir c'est du champagne.
Exactement.
Mais on a vécu, moi je ne peux pas, merci Gilbert, merci. Alors j'ai eu la chance aussi que Serge Trigano m'embarque avec lui, il m'aimait bien, je pars faire un an de congé sans solde, je suis aux États-Unis et il m'appelle, il me dit écoute j'ai Scottsdale, c'est une structure qui va vendre le club dans l'Arizona mais les filles connaissent pas le club. Si tu veux t'en occuper, tu vas aller là-bas et tu vas leur apprendre le club. Mais à l'époque, on n'avait pas ça. Il y avait un diaporama qui circulait, qui avait été construit, qui racontait l'histoire du club. Et moi, j'arrive à Scottsdale, il y avait 80 jeunes femmes qui étaient les hôtesses de vente du club, mais par téléphone. Donc, je prenais 10 par jour, je leur montrais le diaporama, je leur apprenais le club. Et les week-ends, je partais dans les villages.
Avec elles ?
Avec elles. Pour leur montrer comment.
Pour les mettre en immersion.
Ouais. Et c'est là où Serge a organisé le premier séminaire de la zone américaine, quand il a été nommé patron du Club Med aux États-Unis. Et j'ai organisé, moi, avec les chefs de village, et les filles qui étaient là, elles étaient les plus belles les unes que les autres. Et quand ils sont repartis, qu'ils m'ont vu tout seul avec les filles sur le tarmac, parce qu'à l'époque, on avait le droit d'être sur les tarmacs des aéroports. Ils m'ont dit, putain, t'as de la chance de rester, toi. On ne sera pas par rapport à l'histoire. Et puis surtout, on a vécu une époque bénie des dieux. Humainement, je parle d'humainement. Et moi, toute ma vie, on me dit tout le temps, mais t'es trop gentil, t'es pas fait pour faire ce métier. Je parle de producteur où il faut être un peu plus armé. Eh bien, aujourd'hui, avec le recul, je préfère avoir été gentil, je préfère être gentil. Alors, tu rajouteras Géo, mais préfère être un gentil Géo qu'un méchant con, quoi, voilà. Ouais. Et tant pis, s'il y en a qui ont abusé de moi, tant pis.
On s'en fiche. Nous, ouais. on a profité, on a joui de cette période fantastique.
Bien sûr, je peux pas reculer ça.
Il y avait une particularité au Club Med, c'est que nos contrats se limitaient à une feuille A4.
Oui.
On les lisait sans les lire.
Ouais.
Et on travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 5 ou 6 mois.
Ouais.
Et on vivait les uns avec les autres, ouais. Les uns autour des autres. Ouais. On ne pouvait pas s'éviter.
Non.
Et ça, sur le plan social, ça a une importance capitale.
Mais on ne se posait pas la question.
Non, on ne s'interrogeait pas sur ces questions, ouais, absolument.
On ne s'interrogeait pas.
Oui, oui.
C'était
c'est avec fait. Le recul. C'est avec oui. Le recul maintenant que l'on analyse cette situation.
Moi, la dernière fois que je suis allé dans un village du club, j'ai dit plus jamais j'y retournerai. Parce que c'était plus, c'était structuré, c'était, il y avait un ordre établi, et c'est c'est con de parler comme ça, ça fait vieux combattant, t'as raison, mais à notre époque, il n'y avait pas d'ordre établi, il y avait une organisation qui permettait aux gens de passer des bonnes vacances, mais la vie du club, elle tournait, elle s'improvisait, on faisait des fêtes énormes qu'on préparait, mais évidemment qu'elle s'improvisait, la vie, on a lié des liens avec des gens de toutes conditions sociales, de toutes conditions ethniques. Moi, j'ai merci mon Dieu de m'avoir fait naître dans cette époque
dans cette période.
De m'avoir fait rencontrer des gens comme Serge Trigano, que j'aime toujours et que je vois régulièrement, des gens comme Gilbert. Moi, Gilbert, ça a été quand j'entendais Gilbert, il avait un discours incroyable. Je me souviens d'une anecdote. Je peux la raconter ?
Bien sûr.
Lors d'un séminaire important, on est à Marbella, et Gilbert est toute la direction générale. Moi, je ne faisais pas partie de la direction générale. J'étais à la direction de l'animation, mais on n'était pas... Il y avait les grands patrons des quatre régions. Il y avait Shalom, Charlie Benilouz, Jean-Robert Resnick, Serge Trigano, qui étaient les grands patrons autour de Gilbert, etc. Et à la fin du discours de Gilbert, qui dure un peu, comme d'habitude, tout le monde l'applaudit, il dit « s'il y a des questions à poser », et il y en a un qui lève le doigt, on ne les connaissait pas tous les géos, on était tous à Marbella, donc il y avait 1000 géos qui étaient là en séminaire, 3 jours, open bar pour tout le monde, 3 jours on se rencontre, on parlait des saisons à venir et comment, etc. Et je ne sais plus qui, il lève la main, dit « oui Gilbert, moi je voulais te poser une question, t'en as pas marre de nous faire des discours tous les ans, le même discours à la con, où tu nous dis des trucs, on sait bien pourquoi on est là, on sait pourquoi tu nous donnes ça, ça te fait rien de nous rabâcher le même truc, ça t'en as pas marre ?» Il lui dit « qu'est-ce que ça t'apporte ?» Et Gilbert prend la parole. Je me souviendrai toute ma vie. Il dit « écoute, ça m'apporte qu'un petit con de ton âge se permette de parler comme ça à son PDG sans que ça choque personne. » Et là, silence dans la salle. Et c'est vrai, quand il a posé la question, on ne s'est pas rendu compte qu'il lui manquait de respect. Hein. On ne s'est pas rendu compte qu'il avait franchi la ligne jaune. Mais Gilbert, qui était... Alors, quand on faisait les séminaires, il y avait tous les administrateurs du club, il y avait Edmond Rothschild, il y avait tout le monde. Et on pouvait se permettre de parler comme ça à notre patron. Sans que le mec soit viré, il lui dit, sans que ça choque personne, et sans que tu sois viré le lendemain. Et c'était ça le club.
C'était particulier. Alors je te propose qu'on écoute une deuxième séance de ton intervention à Pompadour.
Mais attends, je te pose une question. Tu as enregistré ça à l'époque, c'est toi qui as enregistré ça. Mais c'est incroyable, la qualité du son.
Ouais, elle est bluffante. Là, c'est une petite antenne Bluetooth, mais oui. tu l'écoutes sur des grosses enceintes. Je vais t'envoyer l'original. Je vais t'envoyer l'original. Tu vas voir. On passe au deuxième.
Parce qu'on a un invité surprise pour terminer ce palmarès de la chanson. Et je tiens absolument qu'il chante cette chanson ce soir. C'est notre ami Maurice. Oui, Maurice qui vient ce soir avec une chanson. Une chanson qu'il a composée juste avant de nous quitter il y a quelques temps de ça. C'est une chanson extraordinaire qu'il a composée en une nuit de folie, une nuit de délire lui aussi à Pompadour. Et ce soir, il revient. J'espère qu'on va le trouver un petit peu dans les gradins. Maurice, es-tu dans le coin ? Ah, il est là ? Maurice ? Il est là, Maurice ? Allez, Maurice, vite. Voilà, il arrive, il vient chanter pour vous ce soir une chanson merveilleuse. Une chanson qui certainement va faire beaucoup de choses. Et si on a un recording ou deux, trois encore en cabine, eh bien on pourra faire quelque chose. Mais là, on fait en direct, là, absolument en direct avec Maurice. Comment ça s'appelle déjà cette chanson ? C'était une chanson. Nous deux, je crois, c'est nous deux.
Ah, tiens, crac. Ça marche plus. Décibel, ça marche plus.
1, 2.
Voilà.
C'est un village à piège ici.
Ouais. Oh non, non, non.
Bah, on va, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas dire non, 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 de toute façon. Non, c'est un piège sympa, surtout ce soir. Marc, toi, t'étais bien, hein, je vais te dire. Ils étaient tous là-haut à côté de moi, ils m'ont dit bien, Benzaken. D'après moi, tu peux demander la caravelle après. Chez nous! Bon, effectivement, c'est une chanson que j'ai composée tout seul, moi-même. Bon, enfin, c'est... C'est pas une grande chanson, après Brel, c'est pas... ça n'a rien à voir. Hein, c'est une chanson que j'ai écrite en pensant à une amie à moi qui s'est mariée cette année, parce qu'elle a eu beaucoup de chance et beaucoup de bonheur. Elle a réussi plein de choses cette année, et j'ai pensé à elle et je lui ai fait une chanson. Et ce soir, je lui chante. Bon, hé, hey, je peux dire ce que je veux, sinon vous venez la chanter à ma place. Hein. De toute façon, je lui chante à elle ce soir. Je dirai pas son nom, hein, Lydie. Nous allons faire un beau voyage. Ferme les yeux et prends ma main. Envolons-nous dans les nuages. Il faut dire au revoir aux copains, tous les deux, amoureux, tous les deux, tous les deux, tous les deux, amoureux. Au bout du monde, il y a des îles. Du sable fin et des oiseaux, je trouverai un coin tranquille dans un pays où il fait beau pour nous deux, amoureux, pour nous deux, pour nous deux, pour nous deux. Amoureux. Adieu Paris, adieu grisaille. Adieu la course après le temps. Fini le bruit et la pagaille. Je veux vivre et prendre le temps pour nous deux. Amoureux, amoureux, tous les deux, amoureux. Nous changerons nos habitudes. Je te ferai de beaux enfants qui nous donneront la certitude de nous prolonger dans le temps, tous les deux, amoureux et amoureux, tous les deux, nous allons faire un beau voyage. Ferme les yeux et prends ma main. Endormons-nous sur les nuages. Faisons l'amour jusqu'à demain. Tous les deux, amoureux. Chante. La 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 la. Da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Mais tous les deux, tous les deux, tous les deux, tous les deux amoureux.
Eh bien, bravo, bravo, merci encore Maurice d'être venu avec nous ce soir pour clore ce palmarès de la chanson. Mais on est obligé de s'arrêter parce que les chanteurs commencent à un petit peu essouffler.
Waouh, ça te ramène à ta femme.
Oui.
Et tu as, t'avais pas enregistré quand j'avais chanté Jackie de Brel? Non.
Non, j'avais enregistré un autre géo qui s'appelait Jean-Marc, je me souviens simplement de son prénom, qui avait chanté du Brel remarquablement bien. Et puis, il avait aussi chanté des chansons de la comédie musicale West Side Story, qui était fantastique. Mais on n'imaginait pas à l'époque la qualité de ce qu'on faisait. Enfin, putain, c'est pas moi en tant qu'enregistreur, mais c'est toi. Ouais.
Bon. Alors tu vois, voilà. Pourquoi tout ça n'est pas passé de l'autre côté ? J'aurais bien aimé, c'est con que je ne les ai pas enregistrés sur mon téléphone, mais bon, tu vas me les envoyer.
Je vais te les envoyer, oui. Je vais t'envoyer les originaux. Donc voilà, nos souvenirs du Club Med, qui fait que ben, on a été, comme je le disais en introduction, tous marqués au fer rouge. Chacun, on le dit, avec nos mots, avec nos histoires, avec nos anecdotes. Mais ça a quand même été une école de la vie absolument géniale.
Tu vois, je vais apporter une toute petite nuance à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Pour ne pas être sectaire, c'était pas on peut pas dire que c'était l'école de la vie. En tous les cas, je peux dire que ça a été l'école de ma vie, à moi. Ça a été les codes du club, dans lesquels on s'exprimait, dans lesquels on vivait, ont fait que j'ai été l'homme que je suis aujourd'hui. Même quand j'ai été producteur, j'étais un producteur géo, au grand dam des financiers ou des gens qui comprenaient pas, parce qu'il y a des hiérarchies dans le cinéma. On m'appelait monsieur, je disais arrêtez de m'appeler monsieur, les mecs, appelez-moi Maurice. Mais non, monsieur, ben si, tu m'appelles Maurice. Et j'avais cassé des codes sur les films, et j'ai toujours eu des techniciens avec moi qui me disaient. Les gens du terrain, ceux qui fabriquent, qui sont dans le... nous, avec toi, si tu as des problèmes pour monter des films, on fera des efforts. On préfère faire un film avec toi mal payé qu'un film très bien payé où on se fait chier, quoi. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils avaient leur famille à faire vivre. Mais je sais que j'ai créé ça. Et aujourd'hui, il y a un retour de ça qui me ramène à... Il y a des choses qui me reviennent. Alors que, bon, j'ai 75 ans hein, maintenant, quand même, même si je ne les fais pas. Et voilà, quand tu me fais écouter ça, j'entends, je revois les images, ça y est, là, je suis à Pompadour. J'ai la mémoire en images a fonctionné, pas que la mémoire auditive. Et, période bénie, merci le club, merci les gens que j'ai rencontrés. Je veux dire que la vie est faite de rencontres, des bonnes ou des mauvaises rencontres. Moi, j'ai plus rencontré des gens formidables que des gens moins bien. Les gens moins bien qui m'ont utilisé, finalement, ils sont sortis de ma vie. Et ils ont plus perdu en me perdant que moi en les perdant, franchement. Voilà.
Eh bien, moi, j'ai gagné, en tout cas, en te gardant en mémoire sur mes bandes magnétiques.
Ouais, merci mille fois, parce que tu m'as fait un cadeau, là. Waouh! Tu m'as ramené à l'émotion pure et puis aux plus belles années de ma vie. Hein. Ça, je peux reconnaître que j'ai eu des très bons moments dans le cinéma. J'ai eu la chance de travailler avec des gens comme De Broca, qui était un metteur en scène incroyable, inventif, pétillant, joyeux. Je l'ai accompagné. Ma rencontre avec De Broca, elle a été comme celle avec Trigano au Club Med. C'est une rencontre incroyable. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Et il m'a appris aussi la légèreté qu'on devait avoir et la rigueur qu'on devait avoir dans le cinéma. Et moi, la rigueur que j'ai eue dans le cinéma, c'est celle que j'ai appris quand j'ai été patron de l'animation. Parce qu'autant quand on était animateur, on était sur le terrain, on faisait un peu fou, autant quand tu étais patron d'animation, il fallait organiser.
Et il fallait manager.
Il fallait manager. Et moi, j'ai appris le management au club. Ça m'a servi dans la production. Et maintenant, tu me demandais ce que j'allais faire maintenant. Maintenant, je reviens à mes premiers amours. Je reviens au théâtre. C'est-à-dire, je reviens, je vais redevenir producteur de spectacles vivants, de théâtre, et je vais faire en sorte de produire des... Je vais essayer, j'ai la moelle encore, j'y crois encore, de monter des spectacles avec des projets magnifiques. J'ai le projet de réussir avec un artiste qui aujourd'hui est un peu passé, mais que je trouve est un artiste formidable et que j'aime énormément, c'est Smaïn. J'espère y arriver. J'ai deux pièces de théâtre à monter avec des gens qui m'entourent et avec qui je suis comme j'étais quand j'étais au club et puis qui partagent avec moi l'envie de créer, l'envie de faire. Moi, tu sais, quand j'étais producteur de cinéma, j'ai réalisé, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais j'ai réalisé que finalement, j'ai fait des premiers et des seconds films. C'est-à-dire que je donnais des chances à des jeunes. Et j'étais le seul metteur en scène avec lequel j'ai travaillé, qui était un metteur en scène confirmé, et avec qui c'était facile de faire du cinéma, c'était Le Broca. Mais tous les autres films que j'ai faits, c'était des premiers films et des seconds films. Des films difficiles. Mais mon énergie, ma force de conviction, mon envie, leur donnait la chance de faire, en tous les cas, leur premier film ou leur second film, qui est parfois plus difficile que le premier.
Voilà. Bien écoute, Maurice, merci beaucoup. J'espère que je serai attentif à tes spectacles, à tes prochains spectacles.
Avec plaisir.
Pour t'y retrouver avec le plus grand plaisir.
Mon cher Jean-Philippe, merci de ce moment partagé avec toi, de ces émotions que tu as réveillées en moi. Je ne savais pas que je chantais si bien, dis donc.
Mais tu vas pouvoir les faire réécouter à tous
ceux avec lesquels tu veux les partager. Ouais, je vais les faire écouter à quelques potes. Non pas parce que je chante bien, mais pour leur expliquer voilà où j'étais, comment j'étais, ce que je faisais. Et ouais, c'est une aventure. Je suis passé d'une aventure à une autre aventure avec le métier du cinéma, mais que moi j'ai fait un peu comme chef de village, comme si j'étais un chef de village. En fait, il y a toujours eu la notion de troupe dans ma vie. Pour des histoires qui est ma vie à moi, j'ai été élevé en pension, en colonie de vacances. Après, il y a eu le Club Med, la communauté, le cinéma, la communauté. Pareil, un film, c'est comme une saison. Tu rentres dans un film, tu travailles sur un truc. Au club, il fallait réussir notre saison. Quand tu fais un film, il faut réussir ton film. Ça dure un temps, c'est éphémère, et tu recommences. Et ce côté éphémère, chez moi, je me rends compte aujourd'hui, c'est mon essence. Quand j'entends la chanson que j'ai écrite, qui était « Nous deux », ou l'autre... non, c'est « Nous deux ».
C'est « Nous deux ».
C'est le lieu où je parle d'aller dans les îles. Je suis en train de dire, je veux partir dans une île. Et je me rends compte que je disais ça il y a 40 ans. Ouais. C'est il y a 40 ans, ça.
45.
Il y a 45 ans. Tu vois, Momo, tu as 45 ans, tu avais 30 ans. Voilà.
Bon. Merci beaucoup, Maurice.
Merci, Jean-Philippe. Merci à toi d'être venu jusque-là et pour m'offrir. Tu m'as fait un cadeau. C'est pas moi qui te l'ai fait, c'est toi.
Avec grand plaisir.
Merci, à bientôt.